La loi de la piste par Jack London. Sitka Charley, le guide indien, était renommé pour avoir souvent accompagné ce qui était considéré par tous comme impossible. Nul ne connaissait aussi bien que lui la terre du Nord et ses lois. Sa science ne lui était pas venue en un jour, mais lentement, comme chez tous ses semblables, elle s'était au cours d'expériences répétées imprégnée dans son esprit. Dès son enfance, il avait été en contact perpétuel avec les Blancs et s'était formé le moral à leur école. Depuis, il avait lié définitivement son sort aux leurs, se séparant de plus en plus de ses frères de race. Il avait connu la sagesse des Blancs et longuement médité sur elle. C'est d'eux qu'il avait appris le sentiment du devoir, sentiment qui, dans son âme primitive, avait toujours été en s'exaltant et bien au-delà des leçons reçues. Si bien qu'il en était arrivé à mépriser profondément ses frères de race, mépris qu'il s'était fait une règle de dissimuler, mais qui, parfois, comme en cet instant même, éclatait malgré lui en un cyclone de malédictions à l'adresse de Kachukte et de Gowi. Rudement, il les apostrophait, en un mélange d'indien et d'anglais, et d'un tas d'autres langues, tandis que les deux hommes, sur la piste glacée, courbaient devant lui l'échine. Ils étaient comme un couple de chiens loups sous le fouet, trop lâches pour bondir sur lui et l'attaquer, insuffisamment domptés pour rentrer leur croc. Pas plus du reste que Sitka Charley, ils n'étaient jolis à regarder. Leur visage n'était que de la peau tendue sur des os, les pommettes saillaient, couvertes de croquettes et de gerçures, à vif ou gelées, et dans leurs yeux brillait une sombre flamme, née du désespoir et de la faim. Le guide n'ignorait pas que se confier à de semblables brutes eût été imprudent. Aussi, depuis 10 jours déjà, les avaient-ils contraints à abandonner leurs fusils en même temps que la caravane, exténuée, laissait derrière elle la plupart de ses bagages et de ses ustensiles de campement. Seuls Sitka Charley et le capitaine Epenwill avaient conservé leurs armes. Quand on se fut arrêté, le guide ordonna « Allons, faites le feu !» Et en même temps, il tirait d'une de ses poches la précieuse boîte d'allumettes, ainsi que ses accessoires indispensables, les bandes d'écorce sèche de bouleau. Sans entrain, les deux Indiens se mirent à ramasser des branches mortes et du menu bois. La faiblesse les obligea à interrompre fréquemment leur besogne, avec des gestes incertains, quand ils se courbaient. Par instants, ils titubaient sur place, tandis que leurs genoux s'entrechoquaient comme des castagnettes. Après chaque reprise du travail, ils s'arrêtaient à nouveau, pour se donner un instant de repos tellement ils étaient exténués et brisés. Il y avait à la fois, dans leur morne regard, du stoïcisme patient, de la souffrance, et de cette lueur ultime de la volonté, divine malgré tout, qui est en chaque être. Une bise légère s'était mise à souffler, mordant âprement tout ce qui du corps était à nu, et à travers les fourrures même, faisait pénétrer dans la chair et jusqu'aux os les aiguillons brûlants du froid glacé. Aussi, dès que le feu commençait à flamber, faisant autour de lui fondre la neige sur le sol, Sitka Charley contenait-il ses deux compagnons qui rechignaient à l'aider à tendre un abri. Cet abri tout primitif se composait d'une simple couverture placée sous le vent, parallèlement au feu, comme un écran, avec un angle d'inclinaison de 45 degrés environ. C'était peu de choses en soi, et cela suffisait pourtant à couper la bise et à réfléchir vers ceux qui se blottissaient sous ta protection, la chaleur du foyer. Après quoi, Kachukte et Gowi étalèrent sur le sol une litière faite de branches vertes de sapin, afin de préserver leur corps du contact de la neige fondante, et s'y accroupirent pour panser leurs plaies. Leurs mocassins, encroutés d'une lourde couche de neige et de glace, usés par les longues marches et déchiquetés par les aspérités des glaçons sur les rivières, étaient dans un état lamentable. Leurs chaussettes étaient non moins pitoyables, et quand, ayant dégelé leurs chaussures, ils en tirèrent leurs pieds, leurs orteils aux tons cadavériques variés, disaient à eux seuls toute la tragédie du voyage. Abandonnant les deux Indiens aux soins de leurs pieds, Sitka Charley reprit à rebours la piste qu'il venait de parcourir. Lui aussi ressentait un impérieux besoin de s'asseoir auprès du feu, de panser un peu son corps endolori, mais le devoir s'y opposait. Il lui fallait aller à la recherche de ceux qu'il conduisait et qui étaient demeurés en arrière. Il avançait péniblement à travers la plaine désolée sur la rivière glacée. Chaque pas était un effort de sa volonté et subissait une révolte de ses muscles raidis. Souvent, cependant, il était nécessaire qu'il accélérât son allure, quand il sentait la glace plus faible osciller sous ses pieds, sur une légère couche d'eau qui s'était formée en dessous d'elle. Car il n'ignorait pas qu'une rupture de la glace et la moindre plongée dans l'eau par le froid qui sévissait était pour lui la mort immédiate et sans phrase. À mesure qu'il allait, il s'inquiétait davantage, quand il aperçut, un coup de la rivière, deux de ses Indiens. Ils semblaient harassés, et quoique leurs charges eussent été réduites à quelques livres, ils titubaient et trébuchaient, essoufflés comme s'ils eussent porté les plus lourds fardeaux. Il les interrogea avidement, et les réponses qu'il reçut d'eux parurent soulager son souci. Il continua plus avant, en pressant le pas. Il ne tarda pas à se rencontrer avec deux Blancs, qui réunissaient ce qui leur restait de vigueur pour soutenir entre eux une femme blanche. Eux aussi vacillaient comme des hommes ivres, et leurs jambes flageolaient d'épuisement. La femme avait le moins possible recours à leur appui, tentant d'avancer à l'aide de ses propres forces. Un éclair de joie illumina la face ravagée de Sitka Charley. Il professa pour Mrs. Eppingwell un véritable culte et une admiration sans bornes. C'était en effet la première femme blanche qui prenait la piste avec lui. Quand le capitaine Eppingwell lui avait demandé ses services pour l'accompagner dans cette course hasardeuse et redoutable, il avait tout d'abord balancé gravement la tête en hésitant à répondre. Car il s'agissait de s'aventurer à travers la lugubre terre du Nord, dans des solitudes inconnues, et l'entreprise était de celles qui éprouvent jusqu'en leur tréfonds les âmes humaines. Puis, quand le capitaine avait ajouté que sa femme serait de l'expédition, le guide avait déclaré qu'il refusait net. Une femme de sa race, il l'eût acceptée avec lui, et n'en aurait eu cure. Mais une blanche comme celle-ci, une de ces femmes de la terre du Sud, elle était trop douce et trop tendre pour une pareille randonnée. Sitka Charley ignorait ce que pouvaient être ces femmes. Avec obstination, il avait d'abord dit non. Mais quand Mrs. Eppingwell était venue elle-même vers lui, avec son céleste sourire, quand, en un clair et ferme langage, sans se perdre en explications superflues, sans prières ni supplications vaines, elle avait exprimé son inébranlable volonté, il avait cédé tout d'un coup. Devant la moindre hésitation de la voix de Mrs. Eppingwell, devant son moindre appel à la complaisance, et on ne sait quel essai de le fléchir par ses minauderies coutumières aux femmes, le refus de l'Indien se fut durci comme l'acier. La décision, tranchante et précise de la femme blanche, et son limpide regard, sa surprenante façon de lui parler à égalité de sexe, avaient annihilé en lui toute force de résistance. Il avait aussitôt compris que cette race de femme était inconnue de lui. Et avant même que les premières journées de piste eussent fortifié encore cette impression, il savait maintenant pourquoi les fils de telles femmes sont les maîtres de la terre et de la mer, tandis que lui et ses pareils, nés des femmes de sa race, ne peuvent prétendre à l'emporter sur eux. Tendre et douce, elle l'était, certes, dans son énergie même, et tandis que jour après jour, il l'observait, épuisé, courbattu, mais toujours indomptable, ces deux mots tintaient sans cesse à son oreille comme un continuel refrain. Oui, tendre et douce. Il savait que ses pieds, créés pour fouler les faciles sentiers des pays du soleil, ignoraient la meurtrissure des rudes mocassins du Northland et le baiser terrible du froid. Et tout le long de la mortelle journée, il les regardait cheminer avec admiration. Toujours Mrs. Eppingwell avait un sourire en réserve et pour le plus humble porteur, un mot d'encouragement. À mesure que s'étaient accrues les difficultés du voyage, il semblait qu'elle en eût acquis plus de résistance morale et des forces nouvelles. Quand Ka Chutke et Gowie, qui s'étaient vantés de connaître comme pas un les moindres repères de la piste, aussi familiers pour eux qu'à un enfant les balles de peau empilées dans la hutte de son père, durent avouer qu'on s'était égaré, ce fut elle qui, parmi les malédictions des hommes, prononça les paroles de pardon. Ce soir-là, elle avait chanté pour les voyageurs, chanté jusqu'à ce qu'ils eussent senti leur force renaître et remonter en eux le courage d'affronter le lendemain avec une confiance nouvelle. La caravane, dès lors, avait marché à l'aventure et beaucoup de temps précieux avait été perdu. Les provisions tiraient à leur fin et lorsque les rations durent être à chacun parcimonieusement mesurées. Mrs. Eppingwell s'était insurgée contre une entente spéciale la concernant, qui s'était élaborée entre son mari et Sitka Charley. Elle avait exigé que, conformément à la loi de la piste, sa part fût exactement semblable à celle des autres, ni plus ni moins. Le guide se sentait fier d'avoir connu une telle femme, dont la présence élargissait son horizon moral. Il avait toujours été un impulsif, n'obéissant qu'à ses propres intuitions, sans les raisonner jamais, agissant comme il lui convenait et sans se soucier de l'opinion d'autrui. Maintenant, il lui plaisait infiniment d'être approuvé par la femme blanche. Un regard louangeur de ses yeux loyaux, un mot élogieux de sa voix au timbre clair, un mouvement léger de ses lèvres, un merveilleux sourire, et Sitka Charley en avait pour plusieurs heures à marcher de pair avec les dieux. Il avait trouvé là un stimulant inconnu de ses énergies. Il en vibrait d'orgueil et collaborait avec la jeune femme en un effort commun pour animer sans cesse les courages défaillants de ses compagnons. À sa vue, le visage des deux hommes et celui de la femme s'éclairèrent de joie, car que fussent-ils devenus s'ils les avaient abandonnés? Quant à lui, redevenu impassible, cachant également, comme de coutume, ses impressions de plaisir ou de peine sous un extérieur insensible, il se borna à leur demander des renseignements sur l'arrière-garde de la caravane, leur apprit à quelle distance il trouverait le feu allumé, et poursuivit sa route. Il rencontra ainsi un autre Indien qui cheminait seul, sans rien porter, boitant affreusement, les lèvres serrées, les yeux fous, fous de l'intolérable souffrance que lui causait un de ses pieds déjà aux trois quarts gelés, et où la vie luttait avec désavantage contre la mort. On avait donné à cet homme tous les soins possibles, mais son sort semblait réglé, et Sitka Charley estima par lui que le malheureux n'irait plus loin. Après lui avoir adressé d'un ton bourru quelques paroles d'encouragement, il continua de l'avant, et deux Indiens encore apparurent, à qui l'avait confié Joey, le troisième blanc de l'expédition, et qui l'avait abandonné. Du premier coup d'œil, Sitka Charley discerna dans leur allure une menace dissimulée et comprit qu'ils avaient décidé de ne plus lui obéir. Aussi ne fut-il pas pris au dépourvu quand, leur ayant ordonné de s'en retourner vers l'homme blanc, il vit pour toute réponse jaillir de la gaine l'éclair de leur couteau. Ce fut dans cette solitude désolée, un spectacle plus pitoyable encore, que celui de la bataille de ces trois hommes, tous trois pareillement débiles. Finalement, les deux Indiens reculèrent sous une volée de coups de crosse du fusil de Sitka Charley, et comme des chiens battus qui reviennent à la laisse, firent à nouveau leur soumission. Deux heures après, en compagnie de Joey, chancelant entre deux et le guide fermant la marche, ils rejoignaient le campement qui avait été établi autour du feu et où le reste de la caravane s'était tapis à l'abri de la couverture tendue. Lorsque chacun eut dévoré sa maigre part de galettes cuites sans levain, qui tenait lieu de pain, Sitka Charley, qui avait au préambule mis au courant de la situation les hommes blancs, prit tout haut la parole et s'adressant dans leur langue aux cinq Indiens, déclara avec solennité « Avant de vous endormir pour la nuit, écoutez-moi, mes garçons, car j'ai quelque chose à vous dire. C'est dans votre intérêt que je vous parle, si vous aimez encore la vie, et s'il vous plaît de conserver encore quelque chance de sauver votre peau. Or donc, mes garçons, nous avons franchi sans encombre les collines du silence, et nous cheminons, je pense, parmi celles des Stuarts. Il y a lieu de croire qu'un jour ou l'autre nous toucherons au but. Quand sera-ce? Après encore un sommeil, peut-être, après un petit nombre de sommeils ou après beaucoup d'autres. Il est impossible de le dire. Ce jour-là, nous nous retrouverons parmi les hommes du Yukon, chez qui les vivres sont abondants et qui nous fourniront à manger tout notre sou. Mais jusque-là, il serait bon d'observer la loi. Il y aurait sur ce point depuis quelque temps beaucoup à redire. Aujourd'hui même, Kashukte et Gowi, qui avaient été chargés de frayer la piste, ont failli à leur dignité d'homme et se sont enfuis comme des enfants apeurés. Ce fut de leur part, je l'admets, un moment d'oubli. Donc, passons là-dessus. Mais l'avenir, ils doivent se souvenir, si par hasard ils perdaient encore la mémoire. Sitka Charley fit négligemment vers son fusil un geste significatif. Puis il reprit. Demain, Kashukte et Gowi porteront sur leur dos les deux sacs qui contiennent la farine. Les tasses de farine sont comptées. si à la fin de la journée, quoi que ce soit y manquait, ne fût-ce qu'une once. Clic-clac, c'est compris. D'autres encore ont, tantôt, oublié la loi. Tête d'élan et trois saumons ont abandonné dans la neige l'homme blanc, Joey. Que cela ne leur arrive plus. Dès les premières lueurs du jour, ils partiront en avant afin de frayer la piste. Cette besogne sera suffisante pour eux, car Choucté et Gowi, outre le port de la farine, prendront soin de Joey. C'est entendu? Le lendemain donc, la petite colonne reprit sa route. Il fut impossible au guide de maintenir entre ces divers éléments la moindre cohésion. De Tête d'élan et de trois saumons qui allaient en avant, en tassant la neige, à Choucté, Gowi et Joey qui fermaient la marche, elle s'étira bien sur un mille de longueur. Chacun titubait, tombait ou se reposait à sa fantaisie. La caravane rampait en une succession de haltes irrégulières. On se relevait, et rassemblant ses dernières forces, on se remettait à progresser jusqu'à épuisement complet. Mais par une sorte de miracle, il se retrouvait toujours un reliquat de vigueur à employer. Chaque fois qu'un homme s'affaissait, il avait la conviction intime que c'était sa chute suprême. Cependant, il se redressait encore et encore. Si la chair faiblissait, la volonté triomphait. Mais chaque bataille gagnée était tout un drame. L'Indien, aux pieds gelés, incapable désormais de se tenir debout, se traînait à quatre pattes. Il s'arrêtait rarement, car il n'ignorait pas de quel prix le froid pouvait lui faire payer sa halte. Le sourire de Mrs. Appingwell elle-même s'était comme pétrifié, et ses yeux grands ouverts, qui regardaient avec fixité devant eux, ne voyaient rien. Souvent, elle suspendait sa marche, étourdie et haletante, et pressait sa main sur son cœur. Joey avait dépassé les limites de la souffrance. Il ne suppliait plus qu'on l'abandonnât ou qu'on l'achevât. Il était comme anesthésié par la fièvre, et un grand apaisement en était venu en lui. Il semblait tout heureux, tandis que Choucté et Gowi l'entraînaient brutalement avec force bourrade et le regard mauvais. À voir en surplus d'eux-mêmes la charge de ce blanc leur paraissait injuste et intolérable. La haine leur empoisonnait le cœur, mais ce cœur aussi était lourd de crainte. Pourquoi, au lieu de songer uniquement à leur sécurité, leur fallait-il s'encombrer d'une autre faiblesse? N'était-ce pas risquer leur propre mort? Mais il y avait à considérer le fusil de Sitka Charley. Vers la fin du jour, les chutes de Joey se firent plus fréquentes. Il devenait de plus en plus difficile de le remettre d'aplomb, si bien que son groupe continua à perdre du terrain. Parfois, les deux Indiens et lui, pareillement fourbus, s'effondraient de compagnie. Choucté et Gowi, dont la faim tenaillait les entrailles, ne pouvaient non plus s'empêcher de songer qu'ils portaient sur leur dos, enclose dans ces sacs de farine, la source même de toute force et de toute vie. La tentation était violente, il faut l'avouer, et ce qui advint n'avait rien de bien surprenant. Ils avaient fait halte près d'un grand abatis d'arbres, où des milliers de cordes de bois mort n'attendaient pour flamber qu'une allumette. Tout près de là, un trou d'air se montrait dans la glace de la rivière. Choucté considéra successivement le bois mort et l'eau qui apparaissaient sous la glace, et Gowi fit de même. Les deux hommes échangèrent un regard, puis, sans qu'un mot eût été dit, Gowi alluma un feu. Choucté remplit d'eau une tasse de fer blanc et les mit à chauffer. Quant à Joey, il balbutia on ne sait quoi, en une langue étrangère que les Indiens ne comprenaient point. Choucté et Gowi prirent de la farine et la délayèrent dans l'eau chaude pour former une sorte de pâte à demi liquide dont ils se délectèrent. Ils recommencèrent plusieurs fois l'opération sans rien offrir à Joey, mais Joey demeurait indifférent. Il n'avait souci de rien, pas même de ces mocassins qu'il avait pour se réchauffer, posés à même les braises du foyer, où ils étaient en train de se racornir et de brûler. Juste à ce moment, Sitka Charley, qui avait l'œil, se retourna. Il vit dans le crépuscule monter une colonne de fumée et devina immédiatement ce qui s'était passé. Alors il regarda près de lui ses compagnons épuisés, et Mrs. Appingwell chancelante, qui tous allaient, comme lui-même, souffrir demain davantage encore de la faim. Qui sait si ce n'était pas l'arrêt de mort de la petite troupe, qu'en gâchant ainsi à leur seul profit cette rare et précieuse farine, les deux coquins avaient prononcé. Rapidement, en se dissimulant derrière les buissons, dans la nuit qui tombait, il surgit devant les deux Indiens, prêt à lever le pied. « Ah ah ! » dit-il, « les garçons, vous avez de vrais chefs oublié que vous étiez des hommes. Il y aura demain en compensation deux ventres de moins à nourrir. » Tout en parlant, il avait renoué les cordons du sac de farine entamé et l'avait attaché à un tronc d'arbre. Puis il secoua Joey si rudement qu'une réaction se produisit chez le pauvre diable. « Toi, » prononça-t-il en le poussant sur la piste, « va-t'en rejoindre les autres. Et maintenant, à nous trois. » Les deux Indiens, qui étaient au premier moment demeurés stupides, tentèrent de fuir. « Halte là, Goui, et toi aussi, Kachoukte. Pensez-vous que la farine vous ait donné des jambes suffisantes pour gagner de vitesse, le plomb aux ailes rapides? Vous avez failli au devoir. Ne songez pas à esquiver ce que vous avez mérité. Montrez-vous des hommes, encore une fois, la dernière. Et soyez heureux de mourir, la panse bien garnie. Allons, placez-vous devant moi. Le dos au bois, coude à coude, y êtes-vous ? » Les deux Indiens obéirent avec calme, sans effort apparent, car c'était l'incertitude de mourir qui fait peur à l'homme, plus que la mort elle-même, quand on la sait inévitable. « Toi, Goui, interrogea Sitka Charley, tu as, sous une tente de peau de daim, dans le Chipawoyan, une femme et des enfants. Quelles sont pour eux tes dernières volontés ? C'est que tu leur remettes tout ce qui m'appartient, mes couvertures, mon tabac, les grains de collier et cette boîte qui produit des sons bizarres, à l'imitation de la parole humaine que les hommes blancs m'ont donnée. Tu leur diras que j'ai péri sur la piste, mais sans expliquer pourquoi et comment. Et toi, Kachoukte, qui n'a ni femme ni enfant, j'ai une sœur, qui est la femme de l'homme qui fait la poste à Cochim. Elle n'est pas heureuse, car il l'abat. Remets-lui la somme qui me revient, selon nos conventions, et dis-lui de ma part qu'elle ferait bien de se retourner parmi ceux de sa race. Si encore tu le jugeais à propos, il serait bon de tuer son mari. Il l'abat, et elle a grand-peur de lui. C'est tout ? Êtes-vous tous deux satisfaits de mourir comme vous l'avez mérité ? Oui. Alors au revoir, et bonne chance, mes garçons. Je souhaite que d'ici peu, vous vous retrouviez dans un autre monde, assis devant une marmite pleine, dans une hutte bien chaude. » En disant ces mots, il avait levé son arme, et dans le grand silence, retentirent les échos des deux coups tirés. À peine s'était-il éteint que d'autres détonations roulèrent dans le loin, par-delà la crête des collines qui fermaient l'horizon. Sitka Charley eut un sursaut. Il n'y avait, outre le sien, qu'un seul fusil dans la caravane et plusieurs avaient répondu. Il jeta un regard rapide sur les deux corps étendus paisiblement dans la neige et haussa les épaules en songeant que, s'il avait connu que l'on fût si près du but, il aurait pu sans inconvénient économiser sa poudre. Mais que lui importait à lui la vie et la mort de ces deux hommes ? La loi de la piste s'était, sans plus, accomplie. Et il se hâta d'aller rejoindre avec ses compagnons les hommes du Yukon. Ainsi s'achève « La loi de la piste » par Jack London.